Les regrets d'un mourant. Troisième méditation, l'emploi du temps. Mes forces sont épuisées, mes chers amis, et je me demandais si je ne devrais pas cette fois garder le silence. Je dirai cependant ce que j'avais l'intention de vous dire, en me bornant à indiquer les pensées. L'une des choses qui trouble, ou qui troublerait s'il n'était au pied de la croix, le chrétien qui croit toucher à sa fin, c'est la manière dont il a employé le temps. Et c'est par conséquent l'une des exhortations qu'il doit adresser à ses frères vivants. Il est écrit « Rachetez l'occasion ». Cette version est plus exacte que celle qui est reçue « Rachetez le temps ». Racheter ne signifie pas acheter une seconde fois, mais acheter avec empressement. Achetez avec empressement l'occasion que Dieu vous fournit, car les jours sont mauvais, ce qui fait que l'occasion, une fois manquée, peut ne pas revenir. Le bon emploi du temps en soi est une idée si grande qu'elle effraie l'âme. Il y a quelque chose de plus modeste dans cette pensée. Saisissez avidement les occasions que Dieu vous fournit à mesure qu'il les fait naître. Que de temps et d'occasions perdues par paresse, par incrédulité, par négligence, par égoïsme, par volonté propre, par indécision, par attachement au péché et par mille autres causes encore. Il n'est pas nécessaire de m'arrêter là-dessus. Il n'est pas de chrétien que son cœur ne condamne et dont la conscience ne soit serrée sur ce point. Ah, que le temps que Dieu nous donne est précieux et suffisant. Dieu qui est juste mesure le temps avec l'œuvre et l'œuvre avec le temps et ne nous donne jamais ni une bonne œuvre à faire pour laquelle le temps nous manque, ni un seul moment de notre existence où nous n'ayons quelque chose de bien à faire. Mais comment parvenir à remplir ainsi le temps tout entier et à faire quelque partie du moins du bien immense qu'un seul homme pourrait accomplir s'il mettait en pratique ce précepte « Tout ce que tu auras moyen de faire, fais-le selon ton pouvoir » et s'il était constamment occupé de servir le Seigneur. Je voudrais vous donner là-dessus deux ou trois indications que je laisse à votre conscience le soin de développer. Premièrement, il faut que nous soyons pénétrés de cette pensée que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et que notre temps ne nous appartient pas plus que le reste. Notre temps est à Dieu, et c'est par conséquent en Dieu que nous devons chercher toujours ce que nous avons à faire pour remplir le temps qu'il nous donne et répondre aux occasions qu'il nous présente. Je vous assure que la maladie donne là-dessus des leçons bien précieuses. Je veux dire, sur ce que nous appartenons non pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Notre cœur est naturellement porté, et c'est là la racine même du péché, à se constituer soi-même le centre et le but de la vie. Mais quand on est malade, quand on souffre, comment pourrait-on trouver la consolation si l'on cherche en soi-même le but de la vie? Le but de la vie est alors complètement manqué. La maladie nous apprend qu'il faut chercher le but de la vie ailleurs, que nous vivons non pas pour être heureux sur la terre, mais que nous vivons pour glorifier Dieu. Ce que nous pouvons faire dans la maladie comme dans la santé est souvent mieux encore. Apprenons donc de la maladie, de toutes les souffrances de la vie et de toute la parole de Dieu, que notre temps appartient à Dieu et qu'il ne s'agit pour nous que de l'employer pour sa gloire. Deuxièmement, soyons toujours empressés de saisir les occasions que Dieu nous présente. Elles ne nous manqueront point, et nous trouverons devant nous une vie toute tissue de bonnes œuvres, toute préparée, et où nous n'aurons plus qu'à marcher, qui s'enchaîneront et s'engendreront les unes les autres si facilement, que notre vie ne sera que bonne œuvre, obéissance, et par conséquent, comme on nous le disait tantôt, joie et paix par le Saint-Esprit. Il faut avoir pour cela les yeux constamment ouverts et tournés vers Dieu, en lui disant « « Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse ?» Et une chose faite, « Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant ?» sans aucun intervalle qui ne soit rempli par l'obéissance due à Dieu. Dieu nous fournira à mesure l'occasion de faire une quantité inexprimable de bien. On ne peut pas calculer le bien qui pourrait entrer dans la vie d'un seul homme, ainsi disposé, témoin Jésus-Christ homme, dans les choses de ce monde, les hommes qui ont le plus fait sont des hommes qui ont vécu sur ce principe de saisir l'occasion. Si vous étudiez avec soin la vie des hommes qui ont fait des ouvrages très étendus et très nombreux, comme un Calvin, un Luther, un Bossuet, vous reconnaîtrez qu'ils ont fait les choses qui se présentaient à mesure qu'elles se présentaient d'elles-mêmes sur leur chemin, et que ce sont des hommes qui ont été appelés par l'occasion, tout doucement, à faire ce qu'ils ont fait, comme Bossuet fut conduit par les besoins de l'éducation du dauphin à composer ses meilleurs ouvrages, comme Calvin, comme Luther ont fait leurs meilleurs écrits, y étant appelés par les circonstances. Et au contraire, les hommes ordinaires qui font peu sont ceux qui ne savent pas saisir l'occasion pour en profiter. Ils auraient pu faire tout autant, peut-être, que les hommes qui ont fait beaucoup, mais il leur a manqué l'art de saisir l'occasion. Et le véritable art de saisir l'occasion, c'est l'art chrétien d'avoir toujours les yeux tournés vers le Seigneur et de prendre chaque œuvre à mesure qu'il nous la présente et, quand celle-là est faite, de passer à une autre. C'est prodigieux ce qu'une vie d'homme peut accomplir de cette manière, en suivant simplement la voie toute ouverte par le Seigneur devant chacun de nous. Troisièmement, il faut agir avec règle et avec méthode et ne point livrer au hasard l'emploi du temps que Dieu nous donne. Je disais il y a quelques jours que nous ne devons pas nous faire notre plan à nous-mêmes. Mais il n'est pas contradictoire de dire que nous devons agir avec méthode, pourvu que cette méthode soit prise dans le Seigneur. Pour faire les choses que Dieu nous donne à faire, il faut y apporter de la méthode, de la règle. Ainsi, il convient que nous ayons des heures réglées pour notre lever, pour notre travail, que nous soyons des hommes exacts autant qu'il nous est possible dans les heures de nos repas et de toutes nos différentes occupations. La vie est alors bien plus simple, plus douce, plus facile à remplir. C'est comme un cadre tout préparé où le Seigneur n'a plus qu'à agir. Les hommes qui ont fait le plus, ce sont des hommes qui ont su régler tranquillement et fortement leur vie, surtout s'ils ont pu allier avec cette fermeté une animation d'esprit, une chaleur d'âme qui ne va pas toujours avec cet esprit de règle et de méthode, mais qui, quand il est combiné avec lui, rend un homme capable de faire les choses les plus étonnantes. On dit que le philosophe Kant se plaisait quelquefois à appeler son domestique et à le prendre à témoin que depuis 40 ans, il s'était levé tous les jours à 4 heures. Figurez-vous donc ce que peut faire un homme qui se lève tous les matins à 4 heures. Voyez d'ailleurs quelle est la puissance de la méthode indépendamment de l'heure où on se lève. Par cela seul qu'on a une heure fixe pour se lever, combien n'aura-t-on pas plus de temps à consacrer au Seigneur, par la raison toute simple que si je me lève tous les jours à une heure fixe, j'ai réglé cette heure avec prière devant Dieu, en tenant compte de la prudence et de la sagesse chrétienne. Tandis que si au contraire je me lève au hasard, l'heure de mon lever est réglée selon l'impulsion du moment, c'est-à-dire selon bien des circonstances dont j'aurais pu triompher, selon la paresse, selon le désir d'un peu de sommeil, d'un peu ployer les bras, et la pauvreté viendra comme un passant. Non seulement la pauvreté d'argent, mais d'esprit, de travail et de service de Dieu. Ainsi, la méthode, une vie paisiblement réglée devant le Seigneur, est une chose de la plus haute importance pour apprendre à faire beaucoup pour le service de Dieu. Et enfin, pour ne pas multiplier les réflexions, gardons nos corps et nos esprits dans une disposition qui n'apporte point d'obstacle à ce bon emploi du temps et des dons que nous avons reçus pour les employer selon Dieu. La tristesse, l'inégalité d'humeur, l'entraînement de la volonté propre, la recherche de nous-mêmes, le désir de la gloire qui vient des hommes, sont autant d'obstacles qui nous environnent et nous harcèlent sans cesse et dont nous devons nous appliquer à triompher. Et le corps, ne le négligeons pas. Une mauvaise santé, un corps faible, est souvent un grand obstacle à l'accomplissement de notre œuvre devant Dieu. Nous devons l'accepter quand Dieu l'envoie. Mais il est de notre devoir, devant Dieu, de faire l'exercice nécessaire même pour le corps et de prendre les précautions nécessaires pour le fortifier pour le service et pour la gloire de Dieu. Cette pensée relève et sanctifie tout. Il y a beaucoup d'hommes qui auraient pu faire beaucoup plus qu'ils n'ont fait pour la gloire de Dieu, s'ils ne s'étaient pas livrés à une activité pieuse plus que réfléchie qui les a usés tout jeunes, et ceux qui meurent de bonheur ont examiné s'ils n'ont pas négligé certaines précautions simples, faciles, mais dans lesquelles il est difficile de persévérer, et qui leur auraient permis de travailler plus longtemps pour le service de Dieu. Mais avant tout, fortifions l'esprit et l'âme, et évitons tout ce qui pourrait entraver l'action que Dieu veut accomplir en nous et par nous. Mes amis, nous ne savons aucun de nous le temps que Dieu nous laisse encore, mais nous savons celui qu'il nous a donné et combien nous avons de reproches à nous faire pour l'usage que nous en avons fait. Saisissons celui qui reste devant nous, fort ou faible, malade ou bien portant, vivant ou mourant, nous avons un Sauveur qui a toujours rempli chacun de ses instants d'obéissance à Dieu. Marchons sur ses traces à la gloire par la croix, et nous entendrons à la fin cette douce voix. « Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. »